On a un nouveau chroniqueur ce matin, en remplacement d'Isabelle Fontaine, durant ses vacances. Monsieur Dumont, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même, Monsieur Hamas.
Ça va très, très bien. Premièrement, je vous laisse vous décrire, parce que, bon, les gens ne vous connaissent pas totalement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez aborder durant les chroniques qu'on fera ensemble au cours des prochains jours?
Bien, dans la vie, je suis entrepreneur. Moi, dans le fond, je suis dirigeant d'entreprise de l'agence Continuum, qu'on connaît un peu ici aux ondes du 107.7. On a fait des chroniques au niveau des ressources humaines aussi par le passé. Au niveau de mon background, moi, j'ai un bac en sciences politiques, donc je suis un politologue, ce qui va m'amener à analyser certains sujets avec différents angles qui sont propres au monde des sciences politiques. Pendant mes différentes chroniques, j'aimerais ça aborder vraiment tous les sujets possibles qui peuvent être dans l'actualité. On sait que l'été, des fois, c'est un peu au ralenti, mais il y a toujours des manières d'aborder des sujets qui vont pouvoir susciter un intérêt, puis des réflexions aussi chez les gens.
Des enjeux de société.
Exactement, les enjeux sociétaux, les enjeux importants, les gros dossiers qui sont parfois complexes, mais il y a des manières de les simplifier aussi. Ça, c'est ce que j'aimerais apporter.
Bon, la table est mise, Alexis. C'est de toute beauté. On va commencer par, premièrement, le dossier de l'aide médicale à mourir dont on a parlé abondamment, puis il y a eu beaucoup de débats, puis des arguments valables, autant d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet?
Exactement. Ben, ça fait écho un petit peu au dossier de Mélanie Noël dans la Tribune en fin de semaine. Là, il y a eu... ça a été traité, 3 articles environ. Pour moi, la question que c'est important de se poser, c'est est-ce que oui ou non, on est en faveur de l'élargissement des cas reconnus comme étant éligibles à l'aide médicale à mourir? Parce que si on en parle encore, puis si c'est encore un sujet chaud, c'est parce qu'on a été très restrictif dans l'établissement premier de la loi.
Mais c'est délicat comme sujet, il faut dire.
Oui, c'est très délicat, mais en même temps, c'est urgent parce qu'il y a des gens à bout de ligne qui en souffrent. Pour moi, oui, sur toute la ligne, il faut qu'on élargisse nos critères. Parce qu'au Québec, spécifiquement au Québec et non pas au Canada, il y a un critère qui est particulièrement restrictif, soit celui qu'il faut qu'on soit dans une situation de fin de vie plus ou moins imminente. Donc, il y a la situation de fin de vie, puis l'imminence de cette fin de vie-là, donc les délais rapprochés. C'était probablement une sage décision au début là, de garder ces délais-là. C'est plus facile de donner du lest en politique publique que d'en reprendre. C'est logique, c'est normal. Mais force est d'admettre que, visiblement, avec les cas qu'on a en ce moment, qu'on a eu depuis 2015, on mérite de revoir le cadre. Le cadre est trop restreint, puis il faut qu'il soit élargi. Les opposants, parce qu'on le disait tantôt, il y a des arguments pour, des arguments contre qui peuvent être valables, mais pour moi, les opposants, c'est les mêmes qui s'opposaient à l'époque aussi au principe même de l'aide médicale à mourir. Ces valeurs-là ne sont pas alignées avec les miennes, mais pas du tout. Puis je ne vois pas le bien fondé de leur argumentation à eux. Pour moi, c'est presque comme de dire, par peur d'envoyer un message négatif, un message défaitiste à la société en justifiant le suicide, bien, on vient justifier la souffrance qui est pour moi inutile d'un paquet de gens qui ont des maladies dégénératives incurables. Actuellement, sans nommer de nom, on sait très bien, on l'a vu dans le dossier en fin de semaine, il y a des gens qui savent très bien qu'ils sont sur une pente descendante. Ils vont passer de A à B. B étant le décès.
Mais tout ce qui est maladie dégénérative en partant, là, quand on sait que le destin, malheureusement, ne pourra pas être réglé, on ne pourra pas vous guérir, mais encore là, parce qu'il y en a qui aimeraient ça, être justement en mesure d'être conscient, de prendre la décision, puis au moment où ils perdront justement cette conscience, ils aimeraient que ça soit fait, mais c'est pas actuellement permis. C'est-à-dire
Exactement.
Qu'une fois que vous n'êtes pas dans la mesure de donner votre consentement de manière complète et claire, là, et vous êtes en mesure de prendre la décision, bien, vous ne pouvez plus le prendre. Alors, ces gens-là disent, le jour où je serai rendu là, ou par exemple, pour ce qui est de l'Alzheimer, quand je ne reconnais plus mes proches, j'aimerais ça qu'on mette fin à mes jours. Actuellement, on ne le peut pas.
Non, les demandes anticipées, ce n'est pas possible.
C'est ça.
Ça, c'est un autre problème. C'est du point de vue éthique, là, l'autodétermination des individus, on leur enlève complètement ce droit-là. Puis moi, content aussi que tu amènes ce point-là, Jean-Sébastien. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas autoriser ces demandes anticipées-là parce qu'il y a des gens qui ont des démences heureuses. Donc, de par le fait qu'ils peuvent peut-être mener une vie qui leur aurait plu, théoriquement, on refuse le choix qu'ils ont sciemment fait quand ils étaient lucides de ne pas continuer leur vie s'ils ne peuvent pas en profiter de façon consciente. Ça, c'est un autre débat un peu. Moi, c'est vraiment l'élargissement au sens large parce qu'il y a des cas spécifiques qui amènent des problèmes éthiques aussi d'un côté comme de l'autre. Donc, comme je disais un peu, on passe du point A au point B, on sait qu'on va décéder, mais actuellement, ce qu'on leur dit, parce que leur décès n'est pas assez imminent à notre goût, c'est « on est vraiment désolé pour ta situation, on reconnaît qu'on pourrait faire quelque chose, on le fait déjà même dans certains cas, mais tu vas devoir traverser une période X, une période durant laquelle tu vas progressivement perdre tes capacités mentales et physiques. Il faut que tu souffres encore un petit peu plus pour avoir droit à notre compassion. Continue comme ça, tu vas finir par t'y rendre, prive-toi de nourriture, prive-toi de médicaments, tu vas peut-être t'y rendre plus vite. » Donc, c'est comme si on glorifiait la souffrance des gens en leur donnant une récompense qui est finalement le droit à l'aide médicale à mourir. Moi, personnellement, là, j'ai un problème Ça me trouve profondément qu'on soit capable de traiter nos semblables comme ça. Il est temps qu'on s'en rende compte. Notre inaction en la matière, ça fait souffrir des gens. C'est clair, net et précis.
Et pas juste les personnes qui le demandent, mais l'entourage aussi, qui est justement témoin de la souffrance d'un proche.
Tous les dommages collatéraux de ça, la souffrance psychologique que ça crée, de voir ça s'éterniser inutilement alors que le souhait des gens est clair, net et précis. On ne veut pas se passer à travers toute cette souffrance-là, même s'il existe des moyens médicaux, même s'il existe une panoplie de médicaments dans la pharmacopée pour pallier à ces douleurs-là, pour les rendre plus acceptables, pour les rendre plus endurables plus longtemps. Est-ce qu'on est vraiment obligé de traverser ce calvaire-là? Est-ce qu'on va ne pas aller au ciel pour autant? C'est des arguments moraux, religieux.
Ouais. Mais Alexis, l'autre défi, outre le politique dans cette histoire-là, les médecins, il faut les convaincre de justement embarquer là-dedans. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ne veulent pas donner ces soins-là.
Il y en a beaucoup, mais il y en a de plus en plus qui le donnent ou qui sans le présenter comme une option rapidement, vont finir par le mentionner ou vont le présenter comme une option parmi tant d'autres au fil d'un continuum de soins palliatifs. Je pense que les médecins sont les principaux opposants à ça. Certaines portions des médecins qui sont éthiciens, moralisateurs et pro-vie, disons, ça fait partie des forces politiques qu'il faut combattre si on veut être capable d'avancer. Parce que moi, je pense que le progrès social se fait à travers l'élargissement et non pas la restriction à ce droit-là.
On parlait d'enjeux de société. Là. On commence en force avec ce sujet-là. C'est oui, évidemment un sujet qui est très, très fort. Autre sujet dont tu voulais nous parler, un peu d'actualité politique, parce que même si c'est l'été, il se passe quand même beaucoup de choses.
Exactement. C'est élections. Sûr qu'à l'orée des élections fédérales.
21 octobre, tic-tac, tic-tac. Oh oui, on apprend un paquet de choses. Tu voulais nous parler notamment de Stephen Guilbeault?
Exactement. Moi, vraiment, c'est... Je tiens à souligner ce coup de maître-là en matière de relations publiques là, de Justin Trudeau, en fait, là, qui a réussi à vraiment se positionner sur l'échiquier politique de façon particulière au niveau de la montée de l'écologisme. Pour moi, en fait, en ce moment, pourquoi on voterait vert, qui est un parti qui est marginalisé par le système, veut pas, on sait comment ça fonctionne.
Mais qui augmente quand même dans les intentions
Exactement,
de vote, là, c'est plus que
c'était. 12 % de l'électorat à l'échelle fédérale du Canada, c'est énorme, c'est jamais vu.
À comparer avant, évidemment.
Exactement. Donc ça, c'est une force qui est montante. Puis en ce moment, Justin Trudeau a besoin de crédits verts, si on veut, avec tous les projets énergétiques qu'il y a en cours. Le fait est qu'il y avait besoin d'aller chercher une partie de l'électorat. Il y a beaucoup de libéraux écologistes qui quittaient pour aller voter pour les verts, pour aller voter pour d'autres partis. Mm-hmm. Donc, le NPD aussi, qui a une plateforme verte pas mal plus développée que les libéraux. Donc ça, vraiment, un coup de maître au niveau des relations publiques de Justin Trudeau.
Alexis, permets-moi de te poser une question. Oui. Comment Justin Trudeau peut-il convaincre Stephen Guilbeault, un écologiste militant de longue date, de joindre à lui avec toute l'histoire de Trans Mountain puis de toutes les critiques qu'on entend, l'espèce de deux discours, les deux dualités de Justin Trudeau sur l'environnement? Oui, on est vert, on est très, très pro-écologie puis on veut freiner le réchauffement climatique, mais en même temps, tu payes plus de 4 milliards de dollars pour Trans Mountain. Comment tu peux conjuguer ces deux données, ma foi, fort contradictoires?
Stephen Guilbeault, c'est un écologiste d'une part, mais c'est aussi un pragmatique. C'est quelqu'un qui a agi de façon réelle et concrète pour la cause écologiste depuis 20, 25, 30 ans. Donc, il connaît le système puis il sait ce que ça prend pour être capable d'influencer les choses. Puis moi, je pense que le pari qu'il fait, il est calculé. Il pense que si les libéraux sont réélus, ou même s'ils ne sont pas réélus, ils sont dans l'opposition officielle, il va avoir une plus grosse tribune qu'il n'y en a jamais eu une auparavant pour pouvoir faire passer certains messages. Bon, il y en a qui disent qu'ils se bercent d'illusions en se disant ça, là, qu'ils ne seront jamais capables de chuchoter à l'oreille de Justin Trudeau au pouvoir ou non. Moi, je remettrais un doute là-dessus. C'est vraiment une force qui est montante. En Europe, on le voit de plus en plus. C'est une véritable puissance politique, les partis verts. Ça va le devenir ici aussi éventuellement. Donc, je pense que c'est un pari qui est calculé à la fois pour Justin Trudeau et pour Stephen Guilbeault de se joindre ensemble au Parti libéral.
Alexis Dumont? Ça fait une première réussie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, on doit recommencer. On se revoit demain.
Demain matin, 8h25, c'est un rendez-vous. Je te souhaite de passer une belle journée. C'est très intéressant. Alexis Dumont, notre chroniqueur qu'on vous présentera à 8h25 tout au long de la prochaine semaine.